Mais il y a encore d'ouvrage. Alors, je connais des gars ici qui peuvent venir nous aider. Merci. On va tourner ce matin dans le livre de la Genèse, au chapitre 29. Alors, nous avons une étude à Chicoutimi depuis un an et demi sur ce livre de la Genèse. Nous sommes rendus un peu plus loin que 29. Mais il y a plusieurs réflexions que j'ai trouvées intéressantes sur ce chapitre où Jacob va rencontrer son épouse dans notre histoire de ce matin. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette histoire de Jacob et qui va aller dans le pays de Charan rencontrer Rachel, son épouse, et la famille de Laban. Mais c'est une histoire qui commence au chapitre 28. Où Jacob va partir du pays de Canaan pour prendre cette direction-là, qui va se terminer au chapitre 32-33, avec le retour en Canaan. Donc, pour bien comprendre le chapitre 29, il faut juste revenir un peu au chapitre 28, et j'aimerais donner quelques idées du chapitre 28 pour vous donner un peu le ton que je prends ce matin avec notre texte. Au chapitre 28, Jacob donc est en direction du pays de Charan, donc le pays de ses ancêtres, et il rencontre l'Éternel pendant une nuit, un songe. Dieu lui parle. Alors, il se couche sur une pierre, met sa tête sur une roche, et là, il va avoir une image, un songe, qui va montrer l'Éternel avec une échelle, hein, une échelle du ciel jusqu'à la terre, les anges montent, descendent. Et Dieu lui parle. Dieu lui est en haut de l'échelle. Il va lui parler. Il va lui rappeler les promesses qui ont été faites à ses ancêtres, Abraham et Isaac. Promesses de quoi? D'un pays, partout où tu vas marcher. Le pays où tu marches présentement, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, va être à toi. Donc, promesses d'un pays. Promesses d'une descendance. Ta descendance sera nombreuse. Promesse d'une postérité, une bénédiction aussi universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies. Alors, on se rappelle des promesses qui ont été faites à Abraham. Donc, répétez ici à Jacob dans ce passage, dans ce chapitre 28. Et il lui rappelle aussi quelque chose de très, très important. « Je serai avec toi. » Regardez, verset 15. « Je suis moi-même, 28, tout le monde est là, verset 15. « Je suis moi-même avec toi. » « Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. » Donc, Dieu promet ça, d'être avec lui, de l'accompagner, une présence divine avec lui. Comment va réagir notre ami Jacob face à cette révélation, à cette apparition? Eh bien, regardez au verset 20. « Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Jacob répond à cette offre gracieuse de Dieu par des « si ». « Si tu me donnes à manger, si tu m'habilles, je veux revenir en paix. Si je reviens en paix, bien, tu seras mon Dieu. » Jacob est en train de négocier avec Dieu. Il est en train de lui dire quoi? Si tu me donnes un trio Big Mac, si tu me donnes une paire de jeans, pas un T-shirt, tu vas être mon Dieu. Et Dieu lui avait dit, « Je serai avec toi. Je te fais la promesse. » Jacob, c'est son attitude, mais heureusement, Dieu n'est pas limité par les « si » de Jacob. Il a promis d'accompagner Jacob, il a promis de le bénir et il va le faire. Dieu n'est pas limité par les « si » de Jacob, mais il va s'occuper des travers de Jacob, il va s'occuper des failles de Jacob. Il va le transformer. Il va changer son caractère, le caractère de Jacob, pour qu'il devienne semblable au caractère de Dieu. Il veut transformer Jacob pour le rendre conforme à son image, comme Dieu veut faire avec nous, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à être comme Christ, à changer, à avoir une vie transformée à l'image de notre Seigneur. Et c'est ça que Jacob va vivre dans notre histoire, mais tout au long de sa vie aussi. Évidemment, dans notre histoire, on va le voir. Donc, c'est un peu cet angle, cette façon d'aborder maintenant le chapitre 29. On va lire ensemble versets 1 à 14. Donc, on va voir aujourd'hui les versets 1 à 30 et je l'ai divisé en deux pour que ce soit plus facile. Donc, on voit versets 1 à 14 dans un premier temps. On va lire ça ensemble. Je lis dans second 21, ça peut être un peu différent de votre version second. Jacob se remit en marche, donc on part de l'endroit où il était, pardon, et on continue vers le pays de Charan. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda, il y avait un puits dans les champs, et à côté, trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits que faisaient boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on faisait boire les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Verset 4. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils d'Anakor? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici sa fille Rachel qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. » Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de son père, de sa mère, pardon, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des femmes, des mêmes os et de la même chair que moi. » Amen. Donc, comme j'ai dit, le voyage de Laban, de Jacob, se poursuit. Alors, quelques semaines de voyage pour monter vers le nord-est, arriver à Charan. Et dans les premiers versets, versets 1 à 3 qu'on a lus, c'est un peu l'introduction de l'histoire d'aujourd'hui. C'est une introduction qui va présenter le thème, mais aussi qui présente l'endroit où on est, sur le bord d'un puits. Puis je trouve ça intéressant parce que les puits dans la Genèse sont très importants. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent autour des puits. Les puits, c'est un lieu qui est précieux, quelque chose d'important hein, pour la survie. C'est de l'eau dans un pays qui n'en a pas beaucoup. Donc, avoir un puits, c'est important. C'est aussi un lieu de rencontre, comme on le voit dans notre histoire, comme il y a eu précédemment. Alors, entre autres, au chapitre 24, il y a une histoire où on a un serviteur, le serviteur d'Abraham, qui va rencontrer qui? La mère de Jacob, qui va rencontrer Rebecca. Alors, il y a toute une histoire, il y a un parallèle très intéressant entre les deux. Puis c'est un parallèle qui nous rappelle que c'est beaucoup plus qu'une coïncidence. C'est une direction divine. Le chapitre 24, le chapitre 29, deux rencontres sur le bord d'un puits. qui ont beaucoup de similitudes, mais aussi des distinctions. Mais surtout, ça nous montre que Dieu est là. Dieu dirige le serviteur d'Abraham et Dieu va diriger aussi Jacob. Jacob avait une mission, hein, se trouver une femme. C'est ça que son père lui avait dit. Retourne dans le pays de Charan, va rencontrer la famille de Laban, trouve-toi une femme. Ça, c'est le mandat qu'il avait. Il avait eu la vision à Bethel, il connaissait le plan de Dieu pour le bénir et le protéger. Puis, il est arrivé à l'endroit où était Rachel. Ce qui s'est passé dans Genèse 24 avec le serviteur d'Abraham, ce qui se passe dans notre texte d'aujourd'hui, suggère fortement que tout ça est dirigé par Dieu. Dieu amène Jacob à ce puits pour rencontrer Rachel. C'était un endroit aussi, ces puits-là, qui était réglementé. Ça, on sait moins un peu. Il y avait une gestion de son utilisation. On le voit un peu dans notre texte. Je vous donne un commentaire que j'ai lu. Un puits était une ressource précieuse, comparable aujourd'hui à un puits de pétrole. Il appartenait à quelqu'un. Et ce propriétaire en fixait les conditions d'usage. Quand, comment et probablement à quel prix on pouvait l'utiliser. L'accord entre le propriétaire du puits et les bergers semblait limiter son utilisation une fois par jour. Les bergers devaient se rassembler avec leurs troupeaux, puis le propriétaire ou ses serviteurs roulaient la pierre, permettant ainsi que les brebis boivent, sans doute dans un ordre déterminé, l'ordre d'arrivée. Donc, on peut comprendre tout un peu notre histoire, là. Les discussions qui vont suivre. Alors, ça explique aussi pourquoi les bergers étaient présents si tôt. Le propriétaire avait une gestion, une espèce de code de conduite autour de ce puits. Donc, Jacob commence à discuter avec les bergers, puis son intention est claire dans les questions qu'il pose. Est-ce que la famille de Laban est là? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce qu'il est en bonne santé? Parce que l'objectif qu'il a, c'est de trouver une femme. Alors, si il n'y a pas Laban, il n'est pas là, ça ne marche pas, je m'en vais ailleurs. Alors, c'est l'objectif. C'est le succès de son envoyage qui dépend un peu des réponses qu'il va avoir. Et, fantastique, bonus, Rachel arrive. Puis là, il y a une question de timing. Je ne sais pas si vous avez remarqué les questions qui sont posées. Hein? Jacob va leur dire, c'est pas le moment de rassembler les troupeaux, faites-les boire, allez les faire brouter. Puis Jacob, là, il sait de quoi il parle, c'est un berger. Il connaît la job. Puis effectivement, c'était peut-être pas le bon moment de faire ça. Mais à cause, probablement, de la réglementation de ce puits, les bergers sont là. Non, on doit attendre que tous les troupeaux soient ici avant de les faire boire. Il y a un ordre, il y a un protocole, il y a un code de conduite. Est-ce qu'il voulait être seul pour parler à Rachel? On ne le sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est que lorsque Rachel arrive, le code de conduite prend le bord. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de gestion. Il roule la pierre. Fait boire le troupeau de Rachel en premier. L'embrasse. C'est quelque chose qui ne se fait pas publiquement. Il la prend dans ses bras. Il la serre. Il pleure. Il démontre ses émotions. Alors, tout culturellement, des choses là, tu sais, qui ne sont pas dans l'ordre logique des choses. Et par la suite, Rachel va courir voir son père et lui dire qu'est-ce qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça maintenant? On comprend que Dieu a dirigé Jacob comme il avait dirigé le serviteur d'Abraham au chapitre 24. Mais la question, est-ce que Jacob, lui, se laisse diriger par le Seigneur? Je mets un comparable. Quand je vous dis qu'on parle du chapitre 24, je le mets en comparable. Il y a comme un écho entre les deux. Il y a une belle comparaison qu'on peut faire. Au chapitre 24, avec le serviteur, on n'ira pas tourner, là. On a jusqu'à 1h30, hein? 20? On a 20 minutes encore? OK. On ne tournera pas, mais je vous donne les références. Le serviteur, lui, il va prier en arrivant au puits. 24, chapitre 24, verset 12. Vous pourrez lire ça. Alors, il arrête, il prie, puis il demande à Dieu si c'est bien sa volonté que telle personne qui va se présenter ici lui donne de l'eau, etc. Il donne des règles, il espère, il va dire, montre-moi si c'est bien ta volonté, quoi. Deuxième chose, il attend en silence. Il ne commence pas à poser de questions. Il est très passif. Il attend que sa prière, une réponse à sa prière. Et, évidemment, sa prière va être exaucée exactement comme il l'a demandé. Ça, c'est au verset 21. Et par la suite, il va être dans la reconnaissance. Il va prendre le temps de louer Dieu, de reconnaître sa direction et de le louer pour ce qui s'est passé. Donc, il reconnaît la direction de Dieu dans sa démarche. C'est toi qui as permis que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'a fait notre ami Jacob depuis dans les 14 versets qu'on a lus? Est-ce que vous l'avez vu prier? Non. Il prend, au contraire du serviteur qui était passif, qui s'attendait à Dieu, Jacob, il prend les affaires en main. C'est lui qui s'occupe, qui pose les questions. C'est lui qui va rouler la pierre. Donc, il est très actif dans l'histoire. Complètement l'inverse. Il ne respecte pas le protocole. Donc, il y avait un ordre de choses, des choses à faire d'une façon qu'il ne respecte pas. Et comme j'ai dit tantôt, il s'exprime publiquement. Le serviteur avait été silencieux. Il s'attendait à Dieu. Lui, c'est tout le contraire. Il est exubérant, hein? Très démonstratif. Dieu l'accompagne, c'est vrai. Il dirige toutes choses. Mais lui ne cherche pas à être dirigé. Jacob ne cherche pas à être dirigé par Dieu. C'est comme s'il voit encore Dieu en haut de l'échelle, dans sa vision, puis lui, il est en bas, puis il dit, c'est parfait comme ça. Reste en haut, moi je suis en bas, je vais m'occuper de mes affaires. C'est certainement une leçon que je vois très souvent, même pas juste chez les jeunes, chez tous les chrétiens. On a une relation avec Dieu, on est des chrétiens, on est des croyants. Mais est-ce qu'il fait vraiment partie de nos vies? Je crois que souvent Dieu est un accessoire dans nos vies. On l'utilise au besoin. On mène nos vies sans tenir compte de sa volonté. Il est un accessoire un peu comme on achète une auto avec différentes caractéristiques, des accessoires. On regarde qu'est-ce qu'il nous offre. Puis on choisit qu'est-ce qui fait notre affaire. Dieu n'est pas un modèle d'auto. On le prend en périphérie de nos vies, mais on ne le met pas au centre de nos vies. C'est un thème que j'aime beaucoup parler, je parle souvent de ça, c'est vrai. Comment Dieu devrait être au centre de nos vies. Comment c'est important pour tous les chrétiens. Comme mettre Dieu au centre de nos vies. Mais comment maintenant faire ça? C'est là-dessus que je vais insister ce matin. Comment? Comment mettre Dieu au centre de nos vies? Première chose, avoir une relation personnelle et profonde avec lui. Il n'y a pas d'autre mesure. Il n'y a pas d'autre moyen. Ne demandez pas d'avoir une relation profonde avec Dieu si vous ne le connaissez pas. On apprend aujourd'hui que très peu de chrétiens lisent leur Bible. Statistiquement, très peu de chrétiens lisent leur Bible. J'espère que vous ne faites pas partie des statistiques qui sont affolantes. La plus grande partie des chrétiens vont lire leur Bible une fois par semaine. La plus grande partie. Je ne me souviens plus du chiffre, là, mais c'est plus que c'est 80. Je ne veux pas mettre de chiffre, mais c'est plus que 50%. C'est sûr, c'est frappant. Si on veut avoir une relation avec Dieu, si on veut le connaître, il faut lire notre Bible. Il faut apprécier sa parole. Il faut se donner des moyens d'apprendre. Puis, pensez pas que venir ici le dimanche matin, c'est suffisant. Ce que je vais dire ce matin, vous allez vous en rappeler probablement, si ça va bien, jusqu'à midi, midi et demi. 80% de ce que je vais dire ce matin, vous allez l'oublier, ça c'est sûr et certain. Ce qu'on apprend nous-mêmes, ce qu'on apprend par notre propre recherche, avec des bons outils, vous allez le garder probablement pour toute votre vie. Alors, cherchez à avoir une relation profonde avec Dieu. Priez-le. Priez. Prenez du temps avec Dieu. Pas juste deux minutes un matin avant de partir travailler. Prenez du temps avec Dieu. Arrêtez de manger. Prenez le temps de dîner pour prier. Pas besoin de faire des semaines de jeûne et prière. Je ne vais pas tout vous dire, mais prenez des trucs, prenez des moyens pour prier davantage. Priez pour demander la sagesse de Dieu. On a besoin de savoir ce qu'il veut pour nos vies, dans les décisions qu'on a à prendre. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ma vie? Est-ce que c'est bien la bonne personne? Est-ce que c'est le moment? Quel impact mes décisions vont avoir dans ma vie par la suite? Les décisions financières, décisions relationnelles, décisions de travail. Oui, il y a des grandes décisions. Quel vêtement je vais porter ce matin, ça n'a pas la portée. Ça n'a pas la même portée qu'une décision d'un conjoint, d'un travail, d'une offre de travail qu'on vous donne dans la shop où vous êtes, qui va prendre tout votre temps, puis là, il n'y aura plus d'options pour le soir. C'est des choix de vie, ça, les amis. Quels sont les choix de vie qu'on fait pour mettre Dieu en premier? Être sensible à son action dans ma vie. Est-ce que vous êtes sensible à ce que Dieu fait dans vos vies? Le serviteur s'était arrêté après avoir vu Dieu lui répondre avec Rebecca. Il s'est arrêté puis il a dit, « Merci Seigneur pour ce que tu viens de me montrer. Comment tu as répondu à ma prière? » Dans le ministère que nous avons au camp, l'Église, puis dans ma vie, je comprends ça davantage que je le comprenais quand j'étais plus jeune. Comment Dieu dirige toutes choses. Et j'avoue que ça fait presque peur des fois. Jacob a eu peur quand il a vu le songe, je ne l'ai pas lu, mais il était affolé de voir cette image du ciel. Mais des fois, voir Dieu agir, c'est affolant. Ça donne un choc de voir comment Dieu, wow, il est là. Il est présent. Alors ça, c'est vraiment fantastique. Petit truc aussi, validez vos décisions. Comprends auprès de frères et sœurs qui sont de bons conseils. Puis ça, c'est pas juste pour les jeunes. Des fois, on pense qu'on a beaucoup de sagesse parce qu'on est plus vieux. Gardons-nous une petite gêne. Hein? Soyons... Le leadership de l'Église, travailler en collégialité, mari, femme, travailler en collégialité, on a besoin d'aide pour prendre des bonnes décisions. Dans le leadership de l'Église, dans les choix de famille, les décisions avec nos enfants, travailler en équipe. On poursuit, on arrive maintenant au mariage, notre histoire se poursuit. Donc, Jacob a rencontré Laban. On arrive maintenant à la fin du verset 14. Jacob habita un mois chez Laban. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux fragiles, tandis que Rachel était belle en tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste chez moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Ils lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille Léa, il l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec elle, avec celle-ci, pardon, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années, donc 14 années au total. Après un mois de travaux, de temps, probablement qu'il a travaillé parce que la culture, les coutumes culturelles, c'était que les 3 premiers jours, c'était comme tu étais invité chez nous. Mais après ça, tu n'as pas de moyen de. Il faut du travail. Payer, ça ne se faisait pas beaucoup dans ce moment-là. Il n'y a pas l'argent comme aujourd'hui. Donc, on travaillait. Et là, ça fait un mois que ça dure. Et c'est pour ça que là-bas, il dit, là, tu travailles, mais tu n'as pas de salaire. Ça, tu sais, oui, c'est correct que tu travailles pour être ici, mais là, c'est plus que ça. Alors, le mois qui a été là, ça a permis évidemment à tout le monde de se connaître, à mieux s'apprécier. Et c'est maintenant aussi le moment de parler de choses sérieuses. On tombe en négociation. Et là-bas, on va prendre l'initiative, hein, quel sera ton salaire. Mais c'est intéressant que c'est Jacob qui donne les conditions. Et on voit notre ami Jacob, comme dans le passage précédent, il est actif, il prend des initiatives. On ne le voit pas prier. Jacob va dire, je voudrais épouser Rachel, que certainement il aime, on le voit plus tard. Il a de l'affection pour elle, il l'aime. Et je suis prêt à travailler 7 ans pour elle. Donc, il met le tarif, il met les conditions. Mais notre histoire introduit aussi un nouveau personnage. Léa, la plus vieille, la sœur aînée. Et c'est intéressant de voir qu'on présente Léa en comparant avec Rachel. Hein? On met, puis à la limite, on ne fait pas juste la comparer. On la met en opposition. Regardez dans différentes traductions ce qu'on peut lire. Yeux fragiles pour Léa. Rachel, ben, elle est belle à tout point de vue. Yeux délicats, belle de taille, belle de figure. Yeux délicats, belle de taille, belle de figure. Et dans français courant, le dernier, un regard terne. Tandis que l'autre est bien faite et ravissante. Donc, c'est comme si la façon que c'est présenté, ça nous laisse à penser que Léa, là, ça, c'est pas très intéressant. Ça ne la valorise pas, disons, comme commentaire. On pourrait dire qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont été mal comprises, aussi mal comprises, pardon, que Léa. Parce que l'affirmation, ses yeux délicats, qu'elle a des yeux délicats, a souvent été mal interprétée, puis interprété comme décrivant quelque chose qui est peu attirant, puis voir physiquement là, déficient. Elle a une déficience physique. Puis c'est totalement faux, ça. Le mot en hébreu pour parler de délicat, c'est un mot qui n'est jamais utilisé pour parler de quelque chose de négatif, d'une déficience. On va parler d'enfants délicats parce qu'ils sont trop petits, ils sont trop jeunes. Plus tard, on va le voir. Ne poussez pas les enfants parce qu'ils sont trop jeunes. Donc, ce mot délicat revient. On va parler de ça pour des animaux quand c'est des jeunes veaux qui sont délicats. Alors, ce n'est pas quelque chose de physiquement négatif, c'est juste un état. Et on pourrait dire que, si on le comprend dans son vrai sens, que le mot hébreu rak, erak, on prononce en français raka, dans son sens normal, il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une délicatesse. Alors, on voit souvent délicat dans nos traductions. En contraste avec Rachel, qui pouvait avoir un regard vif et étincelant, Léa avait probablement un regard doux et apaisant. C'est deux personnes différentes, tout simplement. Puis, spirituellement, c'est très difficile d'avoir une différence entre les deux femmes. Leur état spirituel, surtout dans les chapitres suivants qu'on va le voir, mais il y a très peu de différence. J'oserais dire quand même que avec Léa, dans notre chapitre 29, c'est la seule qui va invoquer le nom de Dieu, Léa. Dans les versets qu'on n'a pas lus, là, qui suivent, c'est elle qui va invoquer le nom de Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas elle, mais c'est Rachel qui va amener les idoles de son père avec elle, qui va les cacher. Alors, ceux qui connaissent l'histoire, c'est dans les chapitres qui vont suivre. Ils vont se sauver, ils vont fuir Laban, et Rachel va amener les idoles de son père. Léa sera enterrée dans la tombe de Jacob, mais pas Rachel. Alors, voyez-vous, l'importance de Léa, elle n'est pas à décliner, elle n'est pas moins que Rachel. Mais c'est vrai que l'affection, le cœur de Jacob se porte vers Rachel. Pour fermer ce point, on peut constater que les deux femmes n'ont aucun contrôle dans leur destinée. Aucun contrôle dans cette histoire-là, mesdames. Ces deux femmes-là vont subir tout simplement les décisions des hommes, de Laban et de Jacob. Ce n'est pas eux qui disent un mot là-dedans. Elles seront impliquées, malgré elles, dans cette histoire, mais elles ne seront pas oubliées par Dieu. Dieu va s'occuper d'elles, heureusement. Si Léa et Rachel ne semblent pas avoir de participation dans cette histoire, qu'est-ce qui est important d'après vous dans cette histoire? Qu'est-ce qui est à retenir? Bien, c'est la ruse de Laban. La ruse de Laban, c'est le point culminant de notre histoire dans les versets qu'on a lus. Le trompeur a été trompé. Le titre de mon message, c'est « Rencontrer son maître ». Jacob, comme on dit, il a rencontré son homme. Il a rencontré celui qui allait être plus fort que lui à son jeu. Un commentateur a dit, « En la personne de Laban, Jacob va rencontrer son égal et son moyen de discipline. 20 années, chapitre 31, verset 41, 20 ans qu'il va rester là, Jacob, de corvée et de friction allait façonner son caractère. Friction avec Laban, friction avec ses épouses, va façonner son caractère. Dans ce qu'on a lu jusqu'à date, dans la première partie, on voit que Jacob était convaincu que le Seigneur était à l'œuvre, qu'il l'avait dirigé vers ce puits. Il était convaincu qu'il était à l'œuvre dans sa vie, qui lui avait permis de retrouver sa famille et une épouse. Mais le Seigneur était également à l'œuvre d'une autre façon dans la vie de Jacob, de la manière de la discipline. Il va le travailler d'une autre façon, d'une autre manière, par la discipline, car Jacob a encore des choses dans sa vie à apprendre. On recherche souvent la bénédiction de Dieu avec naïveté, oubliant nos péchés non résolus. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça. Dieu nous aime trop. Il veut nous transformer. Il veut changer nos caractères, comme il va le faire avec Jacob. Et quelquefois, la discipline est nécessaire. On va y revenir. J'aimerais insister maintenant sur l'histoire avec nos deux femmes, les deux filles. Elles font écho à une autre histoire où il y a deux enfants, celle de dans la vie de Jacob. Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü, Léa et Rachel. Deux histoires semblables. Il y a un écho entre les deux. Sa ruse pour voler le droit d'aînesse de son frère Ésaü et la ruse de Laban pour le tromper. On a des comparables. Trois éléments qui soulignent le lien entre les deux histoires. Premièrement, au verset 25 du chapitre, de notre chapitre à nous, Jacob va accuser Laban de ruse. Hein? Tu m'as trompé. Pourquoi m'as-tu trompé? Ça, c'est le verset 25 qu'on a lu. Là. Pourquoi m'as-tu trompé? Et le mot tromper, le verbe, le nom de ce verbe-là, c'est ruse. Et c'est pour ça qu'à l'écran, vous avez 27-35. 27-35, c'est quand Isaac qui va dire, « Ton frère Jacob m'a trompé. » A usé de ruse, pardon. Ça veut dire la même chose. A usé de ruse. Alors, les deux, c'est comme un écho. Jacob, là, il réfléchit, là. Il est en train de réfléchir. Il dit, « Oh, ce que j'ai fait subir, je le subis. » Deuxième lien. Le mot premier-né, Léa va être présentée comme la plus vieille. Hein? Lorsque Laban va donner son explication à Jacob, il dit, c'est pas vrai, c'est pas bien de ne pas donner l'aîné en premier. L'aîné, c'est le même mot que premier-né. Alors, le premier-né avec Jacob, c'était Ésaü. C'est pas bien de faire passer le second avant le premier. Toi, c'est ça que tu as fait. Troisième idée. Le service. Dans le chapitre 27, tournez à celui-là, tiens, il est un peu... peut-être moins évident, on connaît bien les autres. Chapitre 27, verset 28, à partir du verset 29, tiens, ça va être un petit peu moins long. Que des peuples te soient servis. Écoute ça, là. Ça, c'est la bénédiction que Isaac fait à Jacob. Que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est ça la bénédiction que Jacob recevait. Et qu'est-ce qu'il va lui arriver? C'est lui qui va servir. Il va servir son frère, Laban. Laban se présente à lui au verset 14. C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. Tu es mon frère. Et Jacob va servir son frère. Les protestations de Jacob ne servent à rien. Il n'y a même pas de réponse. Désormais, il comprendra ce qu'a ressenti Ésaü. Il allait devoir servir 7 ans de plus et recevoir une famille divisée, une femme aimée, une femme qui n'est pas aimée. Alors, c'est ça que tu vas avoir. Vous savez, si les conventions sociales auraient pu... Et là, je ne lance pas la pierre à Jacob dans cette histoire-là. Okay? Jacob, c'est le reflet de ce qu'on est. Est-ce que Jacob a fait un péché jusqu'à date? Je ne pense pas. Il n'a pas agi, pas fait un péché en ne respectant pas les protocoles. Écoutez, c'est pas si clair que ça. Il n'a pas commis de meurtre. Il a attendu. Il a demandé un salaire qu'il a reçu. Mais il a usé de ruse pour avoir ce qu'il voulait. Si les conventions sociales, droit d'aînesse, entre autres, doivent être mises de côté, ce n'est pas par la tromperie, mais par Dieu seulement qui peut le faire. Est-ce qu'il aurait pu avoir Rachel, autrement dit, sans avoir Léa? Probablement. Probablement. S'il l'avait demandé, s'il s'était attendu à Dieu pour avoir Rachel, s'il avait pris le temps. Puis peut-être que Dieu aurait dit non, tu n'auras pas ça, tu vas avoir Léa. Et là, il aurait peut-être compris que c'était le plan de Dieu pour lui, sous toute réserve. Et je ne crois pas à la polygamie en passant. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait deux femmes. Mais ça s'est passé comme ça. Donc, ce n'est pas par la tromperie, mais par Dieu seulement que les choses peuvent être changées. Les paroles cinglantes de Laban sont laissées sans explication. Les événements vont parler d'eux-mêmes. Et Jacob devra vivre avec les résultats de cette tromperie pour toute sa vie. Il va se rendre compte que cette tromperie a été conçue par Dieu pour que lui, le trompeur, sache que cette façon de faire n'est pas acceptée par Dieu. On ne fait pas ça. Dieu recherche notre sanctification. Il nous aime tellement qu'il veut que nous ressemblions à son Fils. Et quelquefois, cette sanctification passe par la discipline afin de corriger nos erreurs, de corriger nos failles, nos lacunes. Encore une fois, parce qu'il nous aime tellement et qu'il veut que nous corrigions nos fautes. Ceci dit, je lève un drapeau tout de suite là. Ce n'est pas parce qu'il nous arrive quelque chose de difficile que Dieu nous juge. Ça peut être une façon qu'il utilise. Mais ce n'est pas tout ce qui nous arrive dans notre vie qui est un jugement de Dieu contre nous. Le péché s'en occupe déjà seul. Comprenez? Et on n'a pas besoin non plus de vivre un paquet de difficultés pour comprendre qui est Dieu, pour marcher avec lui. Autrement dit, on n'a pas besoin d'aller dans le fond du bassin, dans le fond du baril, pour comprendre qui est Dieu, pour comprendre quel est son amour pour nous, pour avoir une relation profonde avec lui. OK? Je dis souvent à mes filles, tu n'as pas besoin de vivre toutes les expériences difficiles de la vie pour apprendre. Apprends d'une autre façon. Des fois, on a l'impression qu'il faut toujours apprendre par nos erreurs. C'est vrai que les erreurs nous font apprendre. Tu n'as pas toujours besoin de passer par là. Usez de sagesse, usez de discernement, et le chemin de Dieu va être peut-être encore plus facile pour chacun d'entre nous, chacune de vos vies. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on vit vient directement de Dieu, mais je crois que Dieu est souverain et qu'il peut utiliser ces événements que nous vivons pour nous travailler. Afin de travailler sur nos péchés, d'apprendre à mieux le connaître, Dieu, de mieux connaître Dieu, son amour, sa discipline, parce qu'il veut que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Et nous aurons besoin de toute une vie. Jacob aura besoin de toute sa vie, comme nous d'ailleurs, pour apprendre à connaître notre Dieu et à l'apprécier. Et encore, ce ne sera pas suffisant. Heureusement qu'il y a l'éternité. Je termine avec un lien avec l'Évangile ici, parce que je trouve que cette histoire depuis où Jacob se trouve, fait référence aussi à un autre puits du Nouveau Testament. Je l'ai lu ce matin. Le puits où cette Samaritaine va rencontrer Jésus. Et elle va dire, c'est le puits de Jacob. C'est pas le même puits que notre histoire, OK? Mais c'est un puits que Jacob a fait. C'est un puits que Jacob a fait et qui appartenait à sa famille. Et cette Samaritaine le sait, ça. Et j'aimerais juste retourner quand même dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 7. Verset 9, tout simplement. La femme samaritaine lui dit, alors on a lu ce matin, là, donne-moi à boire. Mais je vais insister sur ce passage. Comment, toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Quand elle lui pose cette question-là, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Comment ça se fait que toi, tu me demandes à boire, moi qui suis une Samaritaine? Tout simplement, c'est que ce que ce mot-là veut faire référence, comment ça se fait que tu me demandes à boire, c'est comment ça se fait que toi, tu es prêt à te souiller pour moi? Demande à boire, ça veut dire partager les mêmes ustensiles, le même plat. Et les Juifs ne partageaient pas les plats que les Samaritains, ne partageaient pas les mêmes choses que les Samaritains parce que c'était sacrificiellement impur. Ça faisait en sorte qu'ils ne pouvaient plus rentrer dans le temple adoré. Ils étaient impurs. Et c'est ça qu'elle veut dire, la madame, la Samaritaine. Tu es en train de te souiller pour moi? Qui pouvait se souiller pour elle? ne serait-ce que le Seigneur Jésus. Lui qui le, dont le péché ne pouvait pas l'atteindre. Lui qui était pur, sans péché. Le péché n'avait aucun impact sur lui. L'impureté n'avait aucun impact sur lui. Il y a d'autres passages qui le montrent. Cette femme interroge Jésus. Elle lui demande s'il est plus grand que son père, que leur père Jacob. Jésus est en train de lui dire, il est plus grand que Jacob ici. Tu es devant le Dieu de l'échelle. Celui qui parle à Jacob, ton ancêtre. Certainement, il est plus grand. Il y a ici le Dieu de l'échelle. Jacob regardait Rachel avec un intérêt, certainement, il était amoureux. Il y avait une attirance physique. Il y avait des sentiments. Le Seigneur Jésus regarde cette femme avec un amour complètement différent. Ce n'est pas un amour physique, c'est un amour sacrificiel. Il sait qu'il va donner sa vie pour cette femme. Et c'est pour ça que plus tard, quand il dit « Je vais te donner de l'eau vive, qui vont couler jusque dans l'éternité pour toi. » Il va lui dire plus tard, « Ce n'est pas ici, ce n'est pas à Jérusalem que nous allons adorer, c'est en adorant par l'Esprit. » Parce que justement, ces règles religieuses vont tomber lorsque le Seigneur Jésus va donner sa vie pour elle, va mourir à la croix, va payer pour les péchés. Et ce n'est pas une relation basée sur un temple qu'il veut, mais c'est une relation basée sur ce qu'il a fait. Et c'est ça qu'il veut faire encore aujourd'hui. Jésus a donné sa vie, et comme il l'explique à cette femme. Le péché, je m'en occupe. Le péché ne peut pas m'atteindre. Je suis parfait. Je vais le prendre sur moi, à la croix, à ta place, parce que je suis seul qui peut faire ça. Et plus tard, je vais avoir une relation avec toi, basée sur l'Esprit basé sur la vérité, comme le verset 23 nous le rappelle. Alors, c'est ça qu'il veut faire encore aujourd'hui. Jésus est là, il offre son amour, un amour qui est sacrificiel pour chacun d'entre nous, afin qu'on ait une relation profonde et éternelle avec lui. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton amour qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous corriges. Tu veux que nous soyons semblables à ton Fils. Par l'Esprit qui nous habite, nous pouvons tendre vers cette vérité, cette aspiration de nos âmes. Nous avons besoin de toi quand même. Nous savons que nous sommes incapables par nous-mêmes, mais par grâce, notre Dieu, tu nous accompagnes. Merci pour ton amour qui s'est donné à la croix en ton Fils. Merci parce que tu as porté nos péchés en Jésus et que nous pouvons, notre Dieu, comme cette femme, avoir maintenant cette eau vive qui coule, qui nous rassasie jusque dans l'éternité. Amen.